Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service. De lundi à vendredi, dès 9h, heure de Kinshasa.
Que dit la loi sur les droits des prisonniers? C'est le thème que nous abordons dans cette émission aujourd'hui. Vous savez, les ONG œuvrant dans les secteurs de la défense des droits de l'homme dénoncent souvent la surpopulation dans les cachots de Kinshasa, dans les lieux de détention à Kinshasa, tout comme dans les autres provinces du pays. L'accès à l'alimentation et aux soins médicaux font défaut dans ces hôpitaux. Généralement, ce sont les membres des familles et les structures caritatives qui apportent souvent la nourriture aux détenus. Sinon, ils vont pas manger, ils vont mourir de faim. Alors, quels sont les droits reconnus à un prisonnier? On en parle aujourd'hui avec notre invité, Maître Ruffin Louko, juriste et chercheur et écrivain en droit. Encore une fois, bonjour.
Bonjour, Jody.
Alors, que dit la loi par rapport aux droits des prisonniers?
Merci beaucoup que vous ayez choisi que nous revenions sur ce thème que nous avions, n'est-ce pas, développé la fois passée et que les auditeurs avaient exprimé une certaine attention particulière par rapport à l'actualité, à l'importance du sujet.
Voilà pourquoi on revient dessus.
Ça peut arriver à tout le monde qu'il soit arrêté, qu'il se retrouve en prison. Les gré ou de force, innocent ou coupable, ça arrive à tout le monde. Alors, les droits des prisonniers sont donc fondamentaux. Donc la connaissance des droits des prisonniers est fondamentale. Alors, quels sont les droits des prisonniers? Alors, c'est la loi de 1968, la loi portant régime pénitentiaire.
Ça montre que le prisonnier n'a plus de droits, du fait que il est privé de sa liberté, c'est fini
non,
pour
non,
lui.
Non, pas du tout, au contraire. C'est lui qui, même celui qui est condamné à mort, peine capitale, il a des droits. Il est condamné à la peine capitale, mais il a des droits. Donc, ça veut dire la prison n'est pas la fin de la vie. Lorsque vous allez dans l'historique, l'histoire de la prison, vous allez viser que au début de toute chose, pour qu'on arrête les gens, qu'on les mette en prison, parce qu'il y avait d'abord le bannissement, c'est-à-dire on vous retourne soit au village national, au village natal, soit dans un coin reculé. Et à l'époque, c'était des îles, des îlots. À l'époque de l'histoire, des îlots. Et nous rappelons même là où on avait incarcéré notre premier président de la République, c'était Kasavubu, dans une île au Bas-Congo. Même Simon Kimbangu. C'était donc, on vous relègue dans une île, vous allez y vivre avec les animaux. Et vous ne pouvez pas vous évader.
Une sorte de prison.
Une sorte de prison à l'époque. Oui. Vous vivez avec les animaux. Donc, la conséquence, ou l'objectif visé, c'était que tout l'état que vous êtes là, vous puissiez revenir à vous-même, réfléchir sur la vie, sur l'acte interdit que vous aviez posé, et pour que si vous avez la clémence du roi, ou du moami, du chef coutumier, parce que la justice était toujours rendue au nom du roi ou au nom du moami, dans nos traditions africaines, les chefs coutumiers. Oui. Alors, lorsque vous aurez sa clémence, vous reveniez né de nouveau.
Donc, transformé.
Vous reveniez transformé et rééduqué. Donc, les personnes, ça c'est l'objectif depuis tout le temps. Les personnes sont envoyées en prison pas pour y mourir, c'est pour
être rééduqué,
changer de comportement. On considère comme si vous avez été envoyé là-bas parce que vous êtes un voleur, vous allez revenir, vous êtes né de nouveau. Si vous avez été envoyé là-bas comme un violeur, vous allez revenir, vous ne violerez plus. Comme on dit, plus jamais ça. Donc ça veut dire la prison va vous aider. Et lorsque vous allez dans la plupart de nos prisons, il y a beaucoup trop de prières. Même les plus intrépides qui ne savent même pas qu'un Dieu existe dans ce monde, lorsqu'il arrive en prison, ils reconnaissent que Dieu existe. Même les aventuriers de tous bords, nous nous rappelons d'un grand musicien du pays qui avait été incarcéré en Europe, il en est sorti évangéliste, vous voyez, même si après sa sortie, les choses ont changé.
Donc la prison l'a transformé. Mais quels sont les droits reconnus à cette personne?
Nous y revenons d'abord, l'objectif c'est donc la resocialisation. Alors donc on n'envoie pas les prisonniers là-bas pour y mourir, et on les envoie pour être, en conséquence, ils ne doivent pas être exposés à la mort. Le premier droit des prisonniers, d'abord, le tout premier droit des prisonniers, vous savez c'est lequel ?
C'est lequel ?
C'est la liberté. Le premier droit des prisonniers, c'est l'évasion. S'il a la possibilité de prendre la poudre d'escampette, c'est son premier droit. Et la première obligation de la prison, c'est de ne pas permettre que les prisonniers s'en aillent. Ils doivent purger leur peine. Ou bien ils doivent terminer le temps, n'est-ce pas, que la loi, la procédure qui les a mis là-bas a fixé. Je précise.
C'est ça le premier droit.
Le premier droit des prisonniers. Droit des prisonniers, c'est l'évasion. Donc la liberté.
Et c'est ce que la loi dit.
Non, t'as ça, c'est ça le principe généraux. Le premier droit des prisonniers, c'est d'abord la vie.
La vie.
La vie.
Il a droit à la
selon
vie.
La loi. Il a droit à la vie. Il a droit à la santé. Et il a droit, n'est-ce pas, à un repas ordinaire et régulier. Et puis pas un repas quelconque. Et il a droit à bien s'habiller, n'est-ce pas? Il a droit à bien s'habiller. Et il a droit à des activités. Ça peut être sportive ou manuelle. Donc, quelque chose qui l'empêche d'être immobile. Il faut donc.
Mais ça, en prison, on fait aussi des travaux, on vous soumet à un certain nombre de travaux.
Toutes nos prisons sur l'étendue du territoire national, alors comptez que chaque territoire avait une prison, en 1960. Toutes ces prisons-là étaient dotées, chacune, n'est-ce pas, de menuiseries, des ateliers. Mais la plupart sont tombées, toutes. En panne et en désuétude, donc on les utilisait plus et puis presque tous ces garages, ces ateliers sont tombés. En prison, on apprenait aux prisonniers toutes sortes de travail pour qu'ils en sortent avec un métier. Tout ça s'est effondré. Il n'y a que quelques prisons sur l'étendue du territoire national qui ont encore quelques plantations, quelques possibilités, n'est-ce pas, pour que les travailleurs.
Il y avait même des champs où
il y avait des champs, et ils nourrissaient, nos prisonniers nourrissaient tous les voisins. La plupart donc des villages avoisinant la prison étaient nourris par les prisonniers. En termes de tout ce qui est comme d'arrêt alimentaire de première nécessité, c'était les prisonniers. Vous voyez? Alors, pour dire tout simplement que tous ces droits-là doivent être garantis par la prison. Doivent être garantis et la loi
précise est prévue par la loi.
Est prévue par la loi de 68, portant régime pénitentiaire, n'est-ce pas, en RDC, en dépit du fait que cette loi est totalement dépassée. Parce que, à l'époque, nous avions des prisons partout, des prisons entretenues, dont le...
Mais pourquoi prisons sont devenues des mouroirs aujourd'hui?
Alors, les prisons sont devenues des mouroirs pour une principale raison que nos populations doivent tenir. C'est que Mobutu, qui a régné sur notre pays pendant 32 ans, Mobutu a donné une politique encellée, disant que les Zaïres sont en prison. Donc désormais, les Zaïrois vont se transformer en des anges de lumière et qui ne commettront plus des infractions et ils n'iront plus jamais en prison. En conséquence, il a vu une vision des Zaïres en prison. Et en conséquence de cela, il a abandonné toutes nos prisons à la vétusté. Donc, on n'a plus entretenu aucune quelconque prison, sauf principalement celle des grandes villes. Et là, nous pouvons citer Kinshasa avec la prison centrale. Ndolo avait été abandonné. C'était la prison militaire. Et les grandes prisons de Lousoumou, totalement abandonnées. C'est seulement maintenant qu'on est en train de le réhabiliter. Et alors, toutes les prisons territoriales avaient été totalement abandonnées. Pas d'entretien, donc le personnel, pendant presque toute la Deuxième République. Et nous ne sommes restés qu'avec des grandes prisons comme Makala, le Boulouo à Lubumbashi, Kasapa, Angenga, même Angenga avait été abandonné, donc ça n'a été réhabilité que récemment. Donc la plupart de nos prisons, Chikankasa et Osio, toutes ces prisons là qu'on a réhabilité à peine avec le ministre de la Justice Lozolo à l'époque, n'ont été réhabilitées que récemment, mais avaient été abandonnées pendant environ 30 ans. Ce qui fait donc que lorsque maintenant on est revenu, Mobutu est parti, il faut encore se rendre compte qu'on doit mettre, arrêter les gens et les mettre en prison. Il n'y avait plus de prison.
Alors, vous dites que le prisonnier a droit à la vie. Il a droit à la santé, il a droit au repas. Or, nous savons que ces gens mangent, par exemple, par rapport à l'alimentation. Ils mangent difficilement. Peut-être que ce sont les membres des familles qui viennent avec la nourriture et avant que ça passe, il faut payer. Voilà. Ou ce sont des organisations caritatives, des ONG qui viennent pour apporter la nourriture à ces gens. Bon. Et certains ont des régimes parce qu'ils mangent
évidemment, ça, évidemment. Moi-même, j'ai vécu ça en 96, 97. Je suis entré à prison, j'étais responsable dans les services de sécurité, et puis je me suis retrouvé comme ça pour la première fois à Makala.
En prison à Makala.
J'ai fait quelques mois là-bas. Sans PV, sans quoi.
Et comment
et ça a été fondamental pour moi parce que c'était la première fois. Tu sais, la prison, mes parents me disaient que pour être un homme, il faut avoir fait l'armée, l'internat, ou le campus. Et en fait, la prison. La prison et les parents ajoutaient aussi l'hôpital. C'est-à-dire, ça voulait plus ou moins former complètement. Donc, vous avez une formation complète. Lorsque je suis entré en prison, je dis, donc, c'est totalement le monde à l'envers.
Alors, et comment j'ai pour manger?
Mais pour manger, d'abord pour manger le principe, avec cette histoire de Mvungure et consorts, ça a commencé depuis longtemps. Donc là, la façon dont on prépare pour les gens là-bas, eh bien, c'est sans commentaire. C'est sans commune mesure dans la vie pratique.
Donc, c'est pour...
Alors, c'est la famille. La famille, et il faut la voir, hein. Il faut la voir, parce que si vous vous retrouvez dans un coin où vous étiez nouveau, et vous n'avez pas de famille, là-bas, c'est la catastrophe. Donc, c'est la famille qui m'a amené à manger. Et les amis.
Chaque jour.
Et je me rappelle.
Vous amenez la provision pour préparer.
D'entendre, pas pour préparer. Non, vous ne pouvez pas préparer en prison. Maintenant, évidemment, il y a maintenant certains pavillons. Et là, lorsque nous parlons de pavillons, c'est uniquement, principalement, à la prison centrale de Makala. Bon, à Lubumbashi également. Dans certains pavillons, il y a la classe VIP qui a la possibilité d'avoir un petit réchaud quelque part. Mais à l'époque, on ne préparait pas. Donc, la nourriture devait venir chaque jour. Donc, la famille devait... Si c'est pas le papa, la maman et qu'on sort, c'est en tout cas un ami, je viens me voir, il m'amène des morceaux de pain. Bon, et là, évidemment, je me rappelle, à l'époque, on nous racontait que en prison, si vous mangez de la banane, c'est fini. Qui ne sortira plus jamais.
Pourquoi?
Bon, ce sont les traditions de la prison.
Faut pas manger des bananes.
Il faut pas manger des bananes. Alors moi, j'avais ma foi, je dis non, attends, moi, je n'ai rien fait là. Hein, je ne suis pas venu pour m'asseoir.
Mais
ici.
La nourriture, mais il y a un service qui est là pour charger de préparer la nourriture pour les prisonniers ou pas?
Il y a, dans chaque prison, n'est-ce pas, une cuisine centrale. À la prison de Makala, il y a une cuisine centrale qui est approvisionnée, n'est-ce pas, par la direction de la prison, qui est elle-même soutenue par ici CICR, là-bas les églises et consorts. Donc, à ce qui concerne, la loi prévoit qu'ils ont droit à une ration journalière. Cette ration-là, parce que les prisons ne sont plus approvisionnées, et l'épée qu'on envoie, n'est-ce pas, en prison, est mal gérée. En ce qui concerne les différents services, les différentes personnalités qui interviennent, n'est-ce pas, dans la gestion de cette cagnotte.
D'accord.
Bon, cette cagnotte elle-même est déjà minime, oui. Ce qui fait que les prisons, pour l'essentiel, sont prises en charge par, n'est-ce pas, des associations caritatives, les églises et les ONG internationales qui, n'est-ce pas, ont dans leurs attributions la gestion des prisons.
On a deux auditeurs en ligne, Kapalamanda de Mobile, Jimmy Bataka nous appelle de Beni. Nous parlons des droits des prisonniers. Vous voulez participer, appelez au 081 890-63-94.
C'est parce que Radio Capéine et le Congo que vous êtes concerné par cette émission. Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Chaque jour de 11h à midi, heure de Kinshasa, le mercredi de 10h à 11h, vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter le soir à 20h et sur internet, radiocapi.net.
Que dit la loi sur les droits des prisonniers? Kapalamanda, vous êtes à Moba, bonjour.
Bonjour monsieur, je dis exactement bonjour à M. Kérouko et à tous les auditeurs de l'Okapi Service.
Quelle est votre question, Kapalamanda?
Je suis tellement content. Ma question est, un jour quand mon oncle était emprisonné, je suis allé avec la nourriture. Arrivé là, un geôlier me dira de rentrer à la maison avec cette nourriture. Après avoir négocié avec lui, il me dit de lui passer de l'argent. En fait, comme vous parlez de la loi par rapport aux droits des prisonniers, je dirais qu'un prisonnier n'a pas droit de lui amener à manger là où il est incarcéré. C'était juste ça.
Merci. Jimmy Bataka de Beni, bonjour. Et quelle est votre question?
Bonjour, j'ai dit bonjour à l'invité.
Quelle est votre question, Jimmy?
Que prévoit la loi par rapport à l'État? Si par exemple, je donne un exemple, l'État ne parvient pas à donner aux prisonniers leurs droits, quelle est la sanction quelle est la sanction qu'on peut donner à l'État si y en a, si du moins il y en a. Quelle est la sanction qu'on peut donner à l'État si par exemple l'État ne parvient pas à faire son devoir à l'égard des prisonniers?
D'accord. Merci. Nous avons également plusieurs réactions des auditeurs qui nous ont écrit sur la page Facebook d'OKP Service. Gustave Mukendi nous dit, il est à Kananga, la façon dont les prisonniers vivent au Congo est déplorable, chose grave. La prison est devenue un endroit de transmission de certaines maladies, par exemple la tuberculose. C'est encore un cas qu'on peut résoudre par que notre gouvernement peut résoudre. Alors, Maître Huffin, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces trois auditeurs?
Merci beaucoup. Donc, on commence par Kapala de Moba. Merci Kapala pour votre question. Jimmy et Gustave, l'argent en principe, on doit d'abord, ce ne sont pas les familles qui doivent nourrir les prisonniers. Mais comme on dit à l'impossible, ni constata que votre frère et sœur,
c'est l'État qui est obligé de.
L'État a l'obligation de nourrir les prisonniers. L'État. Et il y a du laxisme dans ces domaines-là, et, n'est-ce pas? Et pour garantir que l'État nourrit ses prisonniers, la loi a imposé à trois autorités l'obligation de visiter les prisons. La première autorité, la plus basse, c'est l'administrateur du territoire, le commissaire des zones, le bourgmestre. Mmh. L'autorité supérieure à celui-là, c'est le gouverneur des provinces. Et après le gouverneur des provinces, il y a le ministre de la justice. Alors, mais chaque compatriote, où qu'il soit, il peut se demander quelle est la dernière fois que le bourgmestre ou l'administrateur du territoire
est passé visiter
la prison. Parce que lui doit se rendre compte de quelle ration, de quelles conditions de santé, quelle existence le détenu sont en train, n'est-ce pas, de vivre. Il doit palper ça, il ne doit pas attendre des rapports. Et la loi parle de une fois par mois pour les uns et une fois par trimestre pour les autres. Donc les prisons doivent être visitées pour vous rassurer si ces gens mangent-ils. Parce que la ration, selon les cas, et l'important c'est de la prison, parce qu'il y a des prisons de détention, il y a des prisons, comme on appelle les maisons d'arrêt, et il y a les prisons déjà condamnées. Alors, selon l'importance de la prison, la ration doit provenir soit du territoire, soit de la province. Et l'important de la prison, lorsque c'est une prison nationale, parce que c'est sur cette catégorie de prison, par exemple, la prison centrale de Kinshasa, Makala, c'est une prison nationale, Boulou, à Lubumbashi, c'est une prison nationale, Angenga aussi, et Kafela, c'est une prison nationale. Et donc, pour celle-là, la ration, l'argent vient du ministère de la Justice, directement. Mmh. Alors, bref, les autorités doivent vérifier ça. C'est pourquoi, en définitive, lorsque tout ça c'est pas garanti, le prisonnier a droit, n'est-ce pas, s'il a la possibilité de partir, de mettre les pieds au cou et de disparaître. Mmh. S'il peut partir. Parce que tout simplement.
Mais Jimmy Debeni nous dit, si l'État, comme l'État n'arrive pas à garantir les droits des prisonniers, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il
porter plainte? Dans notre pays, si vous poursuivez l'histoire, on a déjà condamné le ministre de la Justice dans notre pays pour avoir donné le marché d'approvisionnement de la nourriture. Nous sommes dans les années 80, la nourriture des prisons de la République à sa concubine. Et qui a fait 6 mois sans approvisionner alors qu'il avait l'argent. Et pour la première fois dans notre pays, le procureur général a arrêté le ministre de la Justice. C'est une différence qui se trouve dans notre pays. Le PGR a arrêté le ministre de la Justice. Parce qu'il y a eu mort d'homme en prison. Donc, c'est
six
une
mois
situation.
Sans manger.
6 mois sans approvisionner. Non, il s'est débrouillé comme
il
toujours
débrouillé
depuis l'époque.
Manger, oui, bien sûr.
Depuis l'époque.
Oui.
Hein, n'est-ce pas? Les églises sont toujours. Ce sont des asbels et des établissements d'utilité publique, les églises, qui ont toujours fait leur travail. Et les ONG avaient toujours accompagné. Mais comme l'État, qui avait donné l'argent, on n'approvisionnait pas, l'aide était minime, et il y a une dizaine dans la prison, et déjà sont décédés. Et lorsqu'on a fait les enquêtes, on s'est rendu compte que les numéro 1 étaient le ministre de la Justice, de l'époque. Donc, c'est pour dire tout simplement, si l'État ne fait rien, eh bien, les familles des prisonniers peuvent saisir la justice pour la condamnation de l'État. Mais nous faisons ce que nous faisons ici. C'est pour, n'est-ce pas, éduquer notre population, éduquer les prisonniers et leurs familles, éduquer tous ceux qui sont libres. Parce que, à la limite de la liberté, il y a la prison. N'est-ce pas? À la limite de la liberté, vous pouvez basculer, on a vu déjà, vous pouvez basculer de la liberté et vous vous retrouvez en prison.
À la
parce que tout simplement,
liberté, oui.
Vous avez été au mauvais endroit, au mauvais moment.
Donc, Jirès nous appelle depuis Kikuite. Bonjour.
Bonjour, Pierrot, c'est pas Jurès, plutôt c'est Jurès, mais je suis pas député à Bandundu, hein, dans le chef de la province.
Jurès, vous êtes à Bandundu, moi c'est Jody, on vous écoute.
Oui, oui, je dis, excusez-moi, j'ai trois petites questions à poser à l'invité. Oui. Nous savons que dans le prison, il y a une organisation qui fait que les prisonniers sont regroupés en cellules ou en pavillons. Alors, certaines cellules bénéficient d'un traitement de faveur par rapport à d'autres. Alors, qu'est-ce qu'il faut que certains prisonniers bénéficient de ces traitements comme si j'étais moins coupable que les autres, parce que nous savons le fait de se retrouver en prison et veut dire qu'on est déjà coupable. Alors, la deuxième question est celle-ci. Est-ce que les prisonniers ont-ils vraiment droit de bénéficier de l'assistance extérieure? Alors, si oui, pourquoi cette assistance doit être cautionnée? Parce que nous avons eu à connaître des cas comme ça. Vous visitez un frère qui est en prison, pour lui assister ou pour lui apporter la nourriture, vous devez payer quelque chose aux policiers qui sont commis à la garde des prisons. Alors, la troisième question est celle-ci. Qu'est-ce qui fait que les autorités pénitentiaires assistent et impuissants et à certains traitements inhumains? En l'occurrence, si quelqu'un est en prison, il doit passer à tabac par ceux qui l'ont précédé. Merci beaucoup.
Bien, Constant, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, Jody. Bonjour aussi à l'invité, monsieur Lérifan.
Quelle est votre question?
Oui, oui. Ce que je vais demander à l'invité ce matin, nous voyons quand une personne qui est riche, soit une autorité, est arrêtée, et quand il est en prison, nous voyons que ses conditions de vie sont différentes avec les autres. Soit, s'il est une autorité, il n'est pas ensemble avec les autres prisonniers. Alors, les autres prisonniers sont à part, lui aussi, et aussi peuvent être à part. Alors, je voulais demander, y a-t-il la différence entre les prisonniers qui sont riches, les prisonniers qui sont autorités et les prisonniers pauvres, simples? C'est ce que je voulais demander à l'invité de nous expliquer souvent, parce que c'est ce que nous voyons, ce qui s'est fait ici au Congo. Merci et bonne journée.
D'accord. Nous disons également merci à Isidore Ndoba qui nous a écrit depuis Kananga. Il est étudiant à la faculté des droits à l'UPRECO. Il dit ceci, l'ordonnance portant régime pénitentiaire prévoit que les prisons doivent respecter les conditions d'hygiène et de salubrité. On doit prendre toutes les mesures relatives à la propreté et à l'entretien des locaux, des objets de couchage et des vêtements ainsi qu'à à la toilette des détenus. L'usage des boissons alcoolisées est interdit dans les prisons. Or, ce n'est pas le cas au Congo. Notre gouvernement doit faire beaucoup d'efforts. Johnny Kasongo, depuis la ville de Cabinda, province de Lomami, dit « Chez nous, il y a un système qu'on appelle gouverneur, c'est-à-dire un bol de caca et urine exposé toute la journée dans le même compartiment que les détenus avec tout ce qu'il y a comme odeur. » Et mouches, ou encore lorsque vous arrivez pour la toute première fois au cachot du parquet, vous êtes obligé de saluer ce bol, dit gouverneur, ce bol de caca et d'urine qui reste là pendant toute la journée. Et voilà des choses qui se passent dans nos prisons. Maître Ruffin.
Alors d'abord là, il parle de cachons du parquet. Ça, ce n'est pas une prison. Donc ça n'a rien à voir. Les cachons ont un régime difficile d'existence. Ce qui fait que la loi interdit au parquet de détenir déjà là-bas pendant plus de 2, 3, 4 jours. Le parquet ne peut garder les gens là-bas dans les différents cachots ou amigos des parquets qui tout au plus 5 jours. Tout au plus 5 jours. Et on doit les amener, doivent être mappés pour aller en prison là où les conditions sont plus ou moins bien. Donc les cachots, déjà pour les OPJ, c'est pas plus de 48 heures si c'était l'OPJ qui l'a mis dedans. Et pour les magistrats, pas plus de 5 jours. Donc, entendons-nous déjà très bien, il faut insister parce que chez nous, en ce qui concerne les délais, le respect du temps, nous sommes très faibles. Il faut donc rappeler déjà le principe. Alors, si nous revenons maintenant aux questions, en ce qui concerne la répartition de ces lits,
les pavillons et les traitements est différent.
Je vais préciser à l'intention de Jiresse de Bandundu. Merci Jiresse pour ta question. C'est que Jiresse, bon, autant vous étiez à la vie libre, autant vous êtes en prison. Donc, les prisons sont organisées telles qu'il y a des pavillons pour chaque catégorie. Il y a des pavillons pour les dames, si vous allez à Makala. En tout cas, si ce n'est pas dans les prisons, dans les petites prisons de province, si c'est pas un pavillon, en tout cas, c'est un local.
Pour les
consacré
dames.
Aux dames, aux femmes.
Oui.
À Makala, ici, c'est tout un pavillon. Et il se nomme le pavillon numéro 9, n'est-ce pas? Et là, il n'y a que les dames.
Il y a un autre pavillon pour les hommes.
C'est pour les hommes, les enfants et consorts.
Oui.
Mais en ce qui concerne les hommes.
Oui.
D'abord les hommes. Les pavillons sont répartis selon la gravité de l'infraction commise. Il y a un pavillon à Makala, le pavillon numéro 2. Lui, c'est le criminel dangereux.
Et les conditions d'existence dans ces pavillons, c'est différent d'autres pavillons. Les gens arrêtés pour association condamnée ou arrêtés pour association de malfaiteurs, et des vols à main armée, d'assassinats et consorts, elles sont là-bas.
Et quelles sont les conditions de
vie? Et les conditions là-bas très sont très dures en ce qui les concerne, parce que état de criminels dangereux, il faut des conditions subséquentes ou bien proportionnelles à leur dangerosité.
Mais ils sont là-bas. Mais faut-il les priver de la nourriture, la
salubrité? Non. Les conditions, ce sont les conditions, n'est-ce pas, d'incarcération. C'est pas les conditions pour manger, pour s'habiller, n'est-ce pas, pour se laver.
Pour se faire soigner.
Parce qu'en prison, tous les prisons, je vais vous surprendre, je dis et surprendre nos auditeurs, nos prisons sont plus propres que certains campus. Moi, j'ai été dans les deux. Je suis l'émanation des non-campistes universitaires. J'ai étudié, à commencer à Kinshasa par terminer à Lubumbashi. Je connais les conditions jusqu'à aujourd'hui, j'y enseigne. Les prisons, notamment Makala, est plus propre parce qu'il y a un régime de fer que beaucoup de non-campistes. Ce qui fait que dans tous ces pavillons, les prisonniers, les détenus, se lavent, coupent, et d'ailleurs chez eux, l'eau, il n'y a jamais eu de rupture.
D'accord. Et à l'instant, on va accueillir deux auditeurs, on va revenir. Jean-Pierre Senga, vous êtes à Baraka au Sud Kivu et Paul Malala à Kinshasa. Jean-Pierre, bonjour.
Bonjour, je dis Daniel Kachama.
Quelle est votre question, Jean-Pierre?
Oui, j'ai avec moi deux petites questions. À titre d'exemple, je veux vous donner un peu ce qui s'est passé ici à Baraka. Nous regrettons fort avec des théories qu'on est en train d'écouter chaque jour sur la radio et sur les livres partout là-bas. Et en province, ça ne se fait pas. C'est simple théorie, mais en pratique, non. C'est par exemple ici chez nous, vous avez appris qu'à la radio au Capi, les jeunes en colère ont cassé donc le bureau là du parquet. Bon, plusieurs bureaux là ont été cassés. C'est sur base de cela. Pourquoi? Parce que ici chez nous, à Baraka, quand on t'arrête, avant d'avoir la nourriture en prison, il faut que vous payiez quelque chose. Et comme si la loi dit, la personne arrêtée doit être entrée immédiatement en contact avec sa famille, c'est de la Constitution qui dit ça, mais avant d'entrer en contact avec la personne arrêtée, ici chez nous,
il faut
là, on paye l'argent. Une somme d'argent estimée à 2000 francs. Pour avoir à manger, il faut payer 1000 francs. Ça, c'est reconnu. Nous avons l'administrateur qui doit contrôler les prisons, comme vous venez de le dire. Mais tout cela ne se passe pas. En plus, vous avez dit que c'est le ministère de la justice qui est là pour nourrir les prisonniers. Mais au Congo, ça ne se fait pas. Précisément ici chez nous, à Baraka. Quel sera le sort de ces ministres qui n'ont jamais nourri les prisonniers? Or, dans les argent de budget qu'ils reçoivent, ce budget-là est compté. Et ces pratiques qui se font ici chez nous, des paiements de quelques sommes d'argent avant d'entrer en contact avec le membre de famille incarcéré, que dit la loi à tout cela?
D'accord, merci Jean-Pierre. Paul Malala. D'accord, merci à Paul Malala de Kinshasa. Bonjour, quelle est votre question?
Bonjour. Bonjour à l'invité, bonjour aux auditeurs de la radio Capi.
Quelle est votre question, Paul?
Ma question est la suivante. Je sais que mes prédécesseurs venaient de le souligner. Est-ce que la loi autorise quelque part aux agents de police qui gardent le prison, les différentes prisons au centre d'incarcération, de pouvoir retourner à manger au moment où la famille d'un prisonnier amène un repas à leur frère? Alors, vous vous rendrez compte que la police exige, je connais la prison, je sais pourquoi je parle, exige à ces derniers d'amener un montant de 5000 francs, soit 3000 francs. Au cas où la somme n'est pas atteinte, le prisonnier n'a pas le droit de manger. On retourne ces repas-là à la maison. Je sais que l'invité ne coupe rien. Alors, est-ce que la loi autorise ce genre de pratique? Ça, c'est un. Bon, je voudrais ouvrir une brèche. Permettez. Est-ce que on peut mettre quelqu'un en détention préventive allant de 3 à 4 mois, soit 2 mois, sans pour autant lui présenter son plaignant?
sans pour autant lui présenter un plaignant ou passer par la confrontation. Peut-être que l'invité est un expert dans la matière, il aura vraiment, par exemple, une réponse à nous fournir. Je connais, je vois par exemple la prison de Kabinda là-bas. Les conditions, Kabinda, nous sommes là au niveau de l'Omami. Je vois les conditions dans lesquelles les prisonniers sont en train d'errer là-bas. C'est vraiment des conditions inhumaines.
Voilà. Merci, Paul. Merci Paul. Donc les gens vivent dans des conditions inhumaines au niveau des prisons. Vous avez suivi, la famille apporte la nourriture, le policier qui est là dit vous payez, si vous ne payez pas, retournez avec la nourriture.
D'abord c'est interdit. Chers compatriotes, c'est interdit. Alors je vais commencer rapidement par Jean-Pierre de Baraka qui a dit qu'ils ont entendu beaucoup trop de théories sans pratique.
Mais en pratique, c'est autre chose qui se passe sur les terrains.
Oui, mais hélas, la revendication commence quand? La revendication commence après la lumière. Quand est-ce qu'on dénonce les ténèbres? C'est lorsque on voit la lumière. On constate que les ténèbres, c'est pas bien. Donc, la connaissance, récit, réveil. Nous avons, ça fait environ 5 ans que nous sommes sur ces antennes. Pour chaque jour, que dit la loi? Il faut que vous ayez, vous voyez, monsieur Jean-Pierre de Baraka, vous dénoncez ceci ou cela parce que vous avez appris que la loi dit autre chose. Vous n'avez jamais vu un bourgmestre là-bas visiter la prison. Mm-hmm. Vous n'avez jamais. D'ailleurs, il n'y a pas que les autorités politico-administratives qui doivent visiter la prison. Ceux qui ont le devoir de visiter les prisons chaque jour. Les autres là, c'est par mois, par trimestre. Ce sont les magistrats. Les magistrats, ils doivent, et derrière les magistrats, il y a les magistrats instructeurs et les chefs de ces magistrats-là, c'est-à-dire le procureur à tous les niveaux, les auditeurs des garnisons, les auditeurs supérieurs à tous les niveaux, doivent et aussi visiter la prison pour vérifier si, comme tu as dit, comme Paul Malala a dit, trois, quatre mois, la personne n'a pas, n'est-ce pas, comparé devant les juges. Ou n'a pas réussi de... Alors, mais pour Malala, il faut rappeler que non, on ne vous arrête pas pour vous présenter un plaignant. On vous arrête pour, n'est-ce pas, vous donner les preuves de son arrestation, de l'accusation qui vous est imputée. Cette accusation peut venir d'une personne privée ou du parquet de la police qui constate que tu as commis une infraction. Donc, il n'y a pas nécessairement à vous présenter le plaignant. Si vous avez été arrêté par dénonciation, c'est vrai, on doit vous présenter votre plaignant, mais votre droit, le premier, c'est à être assisté. Mmh. Et il faut rappeler que les situations ne changent pas chez nous, parce que moins d'autorité entre en prison. Nous pouvons croire que si un jour on arrête un premier ministre, oui, ça va nous permettre, n'est-ce pas, il va réaliser la gravité de la prison. Parce qu'en ce qui concerne les évasions, je peux donner une jurisprudence de Lubumbashi, elle est récente. On avait arrêté quelques politiciens à Lubumbashi, à Boulouo, et ils se sont évadés, des politiciens, des responsables. Mmh. Alors, lorsqu'ils se sont évadés, ils ont suivi les sentiers de la brousse jusqu'à aller déboucher, ils voulaient déboucher par la Zambie. Et les services les ont interceptés. Tous avaient les pieds gonflés. Il y avait à l'époque Massasu, Olengankoye, et il y a eu procès à l'Oumaji, parce que lorsque vous vous évadez, c'est une infraction. Il y a eu procès. Je me rappelle que l'un des qui était un grand professeur, la cour lui a demandé, mais monsieur, vous, professeur, vous avez aussi, qui est devenu ensuite une grande personnalité de la République. Vous, professeur, vous avez suivi ces gens ici dans leur cavale et il a répondu en français d'une manière philosophique en disant que non, c'est l'osmose. C'est l'osmose. Alors, lorsque la cour lui a demandé, mais monsieur le professeur, que signifie osmose? Osmose. Et il disait de la manière la plus éloquente que osmose signifie face à la mort. Il n'y a pas de professeur, il n'y a pas de tout le monde réagit de la même façon. Non, face au danger du décès que nous courions en prison, voilà. Nous avons tous.
On n'a pas d'autre choix.
On n'a pas d'autre choix.
Alors, maître, on se rend compte que les droits des prisonniers sont violés au quotidien dans notre pays. On a même suivi les droits à la santé. Certains n'ont pas, quand ils sont malades,
ils meurent en prison.
La tuberculose.
Il y a une réforme du régime pénitentiaire.
Alors, qu'est-ce qu'il faut pour faire respecter les droits des prisonniers?
Bon, c'est-à-dire, tu sais, nous ferons 3, 4, 5 émissions pour ça. Nous avons, ça c'est, les auditeurs savent que c'est pas ça, la première émission que nous avons fait sur les prisonniers. Nous sommes conscients, on avait déjà commencé le régime pénitentiaire à ce qui concerne la réforme du régime pénitentiaire, ce qui concerne la construction de nouveaux prisons. Et comme il y en avait dans chaque territoire du pays, nous avons plus de 130 territoires sur l'étendue d'État national. Donc, il n'était donc pas possible. On a envisagé la construction de, on appelait ça prison pilote. Donc, les régions pénitentiaires, comme on fait les régions de la défense. Alors,
une prison à l'est du pays et devait englober tous les criminels dangereux de 3, 4, 5 provinces. Une prison au centre, une prison à l'ouest et une prison au nord. Donc c'était des régions pénitentiaires. Et à l'époque,
il y a un plan.
C'est un plan qui est au ministère de la Justice. Oui. C'est à partir de ce plan-là qu'on a construit la prison de Bandundu, la prison du cinquantenaire de Bandundu. C'est à partir de ce plan-là qu'on a commencé à construire la prison de Bounia. C'est à partir de ce plan-là qu'on a construit la prison Kangwahi de Beni. Donc, il y avait un plan, mais avec l'instabilité, les changements des ministres, tout le temps, c'est vaille que vaille. Donc, ce sont des plans qui n'avancent pas, parce que nous avons cette finesse habitude de chaque fois qu'il y a une nouvelle autorité, il balaye tout et il reprend à zéro. Et nous sommes dans l'éternel recommencement. Donc, en ce qui concerne les changements de situation, la population va exiger davantage lorsqu'il a la connaissance. Et nous avons le devoir, qui dit la loi, ça veut dire, nous informe notre population que voici ce que prévoit la loi. Et voici donc ce qui doit être fait. Et c'est à vous, il revient à vous de rappeler les différentes autorités, en commençant par les procureurs, les bourgmestres, les magistrats, d'appliquer, de respecter la loi dont vous avez connaissance. C'est donc l'un des mérites, n'est-ce pas, de cette émission, avec son caractère pédagogique, d'éduquer, de former, de conscientiser notre population, que voici vos droits dans tel domaine. Vous êtes même étonné que nous prenions des sujets généralement quelconques, vous les trouvez terre à terre, mais lorsque vous voyez les contenus que nous donnons à ces sujets-là, vous constatez que c'était utile que vous ayez également ces connaissances-là. Donc, notre devoir, nous, c'est que pour chaque situation, nous avons à vous informer que dit la loi, quels sont vos droits, et donc, les autorités seront aguerries, avisées, parce que tout simplement la population est au courant de tout ce qui les concerne en termes d'avantages, d'obligations et de droits, et ils seront plus, parce que nous sommes parmi les pays dont la population revendique le moins. Et depuis un certain temps, la population est au courant de ses droits. Et vous voyez, notre population est de plus en plus revendicative. Parce que tout simplement, elle est au courant de ses droits. Et ça, c'est une grande avancée. Et donc, coup de chapeau à Okapi Service.
Maître Ruffin Luko, juriste et chercheur et écrivain en droit. Merci. Et bon début de semaine.
Merci à tous les auditeurs également pour leur attention.